BFM Business et CB News présentent Hebdo.com avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans Hebdo.com sur BFM Business. Aujourd'hui, on sera avec Jérémy Bugard. C'est le cofondateur et directeur général France d'Agence 79 qui lance une offre dédiée aux annonceurs qui veulent internaliser leurs achats médias. Ça s'appelle Home. Emmanuel Grossir, qui signe l'édito de la semaine, nous expliquera pourquoi TBWA a brutalement claqué la porte de l'association des agences conseils en communication cette semaine. Et puis, on s'intéressera au mouvement MeToo dans la pub. Depuis quelques semaines, les témoignages de harcèlement se multiplient dans les agences. Est-ce que la parole est maintenant complètement libérée? Jean-Luc Bravi, CEO de DDB Paris, et Carole Thomas, vice-présidente du réseau Toutes Femmes, Toutes Communicantes, seront avec nous pour en discuter. Hebdo.com, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, Hebdo.com, les news.
Et comme chaque semaine, j'ai le plaisir de retrouver Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Aurélie.
Et bonjour Marie Valogne.
Bonjour Aurélie.
Alors Marie, dans l'actualité cette semaine, vous avez retenu cette campagne de la Monnaie de Paris qui s'invite sur nos petits écrans.
Avec son agence La Chose, la Monnaie de Paris fait appel à Stéphane Bern. Dans un spot humoristique diffusé à la télé, on découvre l'animateur qui s'invite dans la cuisine d'un père et de sa fille qui sont en train de petit déjeuner. Il leur raconte une anecdote sur Louis XVI qui fuit la Révolution déguisée, mais qui est reconnu parce que sa tête est en fait sur toutes les pièces de monnaie. Une campagne pour promouvoir la nouvelle collection en édition limitée pièces d'histoire, une réédition des pièces qui ont marqué l'histoire de France. Et pour chaque pièce argent achetée, 1 euro sera versé à la Fondation du patrimoine.
Dans un tout autre registre, Marie, l'Armée du Salut lance une campagne pour sensibiliser sur la situation des sans-abri avant la fin de la trêve hivernale.
Des bénévoles ont tagué au sol des rectangles dans la rue, des rectangles où il est écrit « place réservée aux sans-abri », des marquages qui font penser aux places réservées pour les personnes handicapées. Avec cette opération, l'Armée du Salut veut sensibiliser à la fin de la trêve hivernale qui l'oblige à fermer une partie de ses hébergements d'urgence, et la Fondation alerte des milliers de personnes pourraient se retrouver à la rue. La campagne est signée par l'agence VMLIR. J'arrive pas du tout. Voilà.
Allez, dans un registre nettement plus léger, Marie, cette nouvelle campagne de Rosa Parks pour Monoprix. Et je crois qu'on se sent tous concernés.
L'humanité, hantée par un mystère à ce jour jamais résolu. Un mystère qui traverse les frontières et les âges. Ce mystère, c'est...
Mais c'est pas possible! Mais elle est où, cette chaussette?
Et oui, ce mystère des chaussettes qui disparaissent. Monoprix s'amuse de cette scène de la vie quotidienne dans sa dernière publicité. Une scène que tout le monde a forcément déjà vécue au moins une fois quand on cherche désespérément cette fameuse chaussette qui est complètement perdue chez nous alors qu'on est en même temps pressé. Alors pour que cela ne se reproduise plus jamais, Monoprix a la situation en main. La marque lance la paire de 3 chaussettes, 2 chaussettes plus une pour remplacer celle qui se perdra forcément.
Et puis Intermarché qui récidive avec une nouvelle campagne hors du commun.
L'enseigne s'est de nouveau payé un spot de 3 minutes pour fêter ses 50 ans. C'est magnifique, un court-métrage réalisé par l'agence Romance. Le film joue la carte de l'émotion sur une chanson interprétée par Benjamin Biolay. On y découvre l'histoire d'un homme aux cheveux grisonnants qui a perdu son épouse et qui se met à la cuisine pour retrouver la recette du plat de pâtes que lui préparait sa femme. Recette qu'il retrouve peu à peu en multipliant ses achats de produits frais chez Intermarché. Alors avec ce nouvel opus, Intermarché reprend les codes de sa campagne L'amour, l'amour. Vous vous souvenez sans doute de cette publicité où on découvrait un jeune homme qui décidait d'arrêter la malbouffe pour séduire la jeune caissière. Un spot de 3 minutes largement salué par le monde de la pub en 2017 où Intermarché s'engageait en faveur du mieux manger.
Frédéric, on parlait la semaine dernière du nouvel opus d'Intersport. Ouais. C'est la mode des sagas, là.
Ah, c'est la grande mode des sagas. Mais en plus, pour ce qui est d'Intermarché et Romance, en effet, comme le disait Marie, ça a été très primé, ça a été très vu. Donc là, la barre était très haute. Dans les rédactions spécialisées, le débat est ouvert sur est-ce que c'est mieux ou moins bien. Je laisse le public en juger.
Merci Marie Valogne.
BFM Business, Hebdo.com, l'invité.
L'invité de la semaine, c'est Jérémy Bugard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur et directeur général France d'Avas 79. Vous lancez Home. C'est une offre destinée aux annonceurs qui ont envie d'internationaliser leurs achats médias. Quel est le point de départ de cette offre?
Alors le point de départ de cette offre, c'est un état de fait en France où beaucoup d'annonceurs se posent la question effectivement de l'internalisation. Et c'est surtout une réalité en Angleterre, aux États-Unis, où à peu près 80% des annonceurs ont internalisé tout ou partie de leurs conseils et de leur achat d'espace publicitaire. Oui, c'est un chiffre qui paraît un petit peu étonnant. Alors 80%, ça veut pas dire tout. Mais ça veut dire une partie de leur marketing, une partie de leur expertise sur le conseil et les médias. Donc,
et pourquoi en France on est en retard alors là-dessus?
On est en retard, un petit peu comme toujours. En l'occurrence, ça finit toujours par arriver chez nous, mais c'est déjà le cas pour un certain nombre de grandes marques françaises, hein, du CAC 40, mais pas que. On sait que de grands groupes comme L'Oréal avaient internalisé déjà il y a bien longtemps leurs achats d'espace. Mais aujourd'hui, et notamment des clients que nous accompagnons, c'est le cas du Club Med, c'est le cas d'Air France qui a été un précurseur sur cette internalisation. Et d'autres annonceurs qui vont suivre, bien entendu. Et pour nous, on y voit une vraie belle opportunité pour les agences médias de muter vers des métiers du conseil et de pouvoir accompagner ces annonceurs dans leur internalisation.
Mais en fait, ce mouvement d'internalisation, décidément, ouais,
il n'est pas évident.
qui vient des pays anglo-saxons à la base, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les agences médias au départ, parce que ça dit aussi, si les annonceurs internalisent, que le job des conseils est ils peuvent le faire tout seuls et que globalement ils n'ont pas besoin de vous, non? Ou...
Alors moi, encore une fois, je vois ça comme une belle opportunité, au contraire, de muter vers des métiers du conseil. Les annonceurs ne peuvent pas tout faire. Alors, ils ont un besoin de transparence, de réactivité, et puis il y a aussi un phénomène qui explique cette internalisation, et c'est notamment l'essor du programmatique. Mm-hmm. Vous avez peut-être vu les derniers chiffres de l'Observatoire du SRI. Mm. 70% des investissements aujourd'hui dans le digital sont programmatiques. Donc, ça veut dire automatisation, voilà. Ça veut dire désintermédiation, et ça veut dire que les annonceurs pensent qu'ils peuvent se passer, effectivement, d'une agence. Mais en l'occurrence, ces agences qui, aujourd'hui, s'occupent d'un très grand nombre d'annonceurs, gèrent de très gros investissements, rencontrent des technos, des régies publicitaires, ont une carte à jouer et au contraire sont les meilleurs, je pense, pour pouvoir donner ce conseil aux clients et aux annonceurs.
Ça veut dire que à l'avenir, les agences médias qui, comme la vôtre, mettront comme ça un pied plus direct dans les entreprises, vont pouvoir peser davantage aussi sur la stratégie de ces annonceurs?
Parfaitement, c'est exactement le cas. Ça nous permet aussi d'être en relation avec des personnes plus importantes dans l'entreprise. Bien entendu, les directions marketing avec qui nous continuons d'avoir des relations directes, mais aussi le top management et la direction générale, notamment sur des sujets de conseil, de transformation digitale. Les agences ont beaucoup évolué. On vient d'un métier qui était le métier de centrale d'achat d'espace publicitaire où on était principalement dans l'achat d'espace et dans la négociation. Aujourd'hui, on accompagne les entreprises dans leur transformation digitale, dans l'UX, dans la data, dans l'analytics, etc., etc. Effectivement, expérience utilisateur. Ça veut dire que de toute façon, ces agences médias, elles ont évolué vers des métiers de conseil. Et ces agences médias, pour moi, elles n'ont pas du tout à rougir face à des grands cabinets conseils que
alors
vous connaissez.
Justement, ouais, mais en fait, la proposition d'internalisation, c'est aussi une manière de répliquer à ces cabinets de conseil, à ces Accenture et autres de Deloitte qui eux, ils sont déjà quoi, ils sont déjà là dans l'entreprise. Donc c'est une manière de contenir leur offensive.
Aussi, effectivement, mais pas que, parce que je pense, moi, que les agences médias sont les mieux placées pour conseiller les clients, notamment dans le digital. D'une part, parce que les agences médias sont dans le digital depuis plus de 20 ans, depuis les années 95, on va dire, en France, hein, et pas avant. Mmh. Et aussi, et surtout, parce que les agences médias ont une expérience et une expertise extrêmement forte. Des milliers de campagnes publicitaires, des millions de data qui permettent vraiment d'avoir un discours de la preuve, du réel, et avec véritablement du pragmatisme. Je dis pas que nos confrères en cabinet conseil n'ont pas ce pragmatisme-là, mais en tout cas, elles n'ont pas cette expérience et leur métier de base n'est pas de gérer des campagnes publicitaires qui peuvent nous donner effectivement un certain nombre de données sur les clients, mais aussi sur les consommateurs.
Moi, j'aimerais comprendre comment ça marche concrètement. C'est-à-dire que vous dédiez une équipe qui va s'installer dans les bureaux de, par exemple, le Club Med?
Parfaitement. Parfaitement. Ça a été le cas pour le Club Med, où le Club Med a internalisé levier marketing après levier marketing. Ça a commencé par le search. Mmh. Ensuite, tout le programmatique, le search étant du programmatique également. Donc, achat d'espace en temps réel et aux enchères, en display, sur les réseaux sociaux. Et notre boulot a été effectivement d'accompagner, de former les équipes du Club Med, qui a carrément lancé une agence qui s'appelle Data Lab 45. C'était former ces équipes, placer des profils en régie chez l'annonceur pour pouvoir être proche des équipes du client, auditer les campagnes et désormais accompagner le Club Med essentiellement sur du conseil que j'évoquais et de la transformation digitale.
Mais si vous les formez en interne chez eux, ils n'ont plus besoin de vous, pardon, mais...
Alors, c'est ce que j'évoquais. Ils vont toujours avoir besoin de nous. Alors oui, aujourd'hui, les équipes que nous avions pour le Club Med, parce qu'on travaille avec le Club Med depuis 2 ans maintenant, et on s'occupait également de toute la partie opérationnelle et de la mise en place des campagnes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais nous intervenons sur la partie conseil. Donc les équipes qui sont aujourd'hui mises en place pour le Club Med sont moins nombreuses, mais avec des profils plus seniors, avec plus de contacts avec la direction et une rentabilité, pour être très clair, qui est plus forte que celle que nous avions jusqu'à maintenant avec le Club Med. Donc c'est là aussi l'effet d'opportunité, notamment sur la rentabilité et la marge des agences médias qui, on le sait tous, est moins forte que celle des cabinets conseils. Cabinet conseil qui est des marges qui sont de l'ordre de 15 à 20% et l'idée de pouvoir se rapprocher justement de ces marges-là et d'être vraiment rémunéré pour le travail qu'on fournit, ce qui est le cas dans notre agence, hein, agence 79 depuis toujours. Hein. Nous, on a toujours été rémunéré au temps passé, donc pour le travail qu'on fournit.
Et pour le client, c'est plus avantageux en termes financiers?
Pour le client, c'est plus avantageux. Selon les clients, oui. Air France avait dit que leur internalisation leur avait permis de faire une économie de 20% dans leurs achats d'espace. Et donc, c'est pas négligeable.
Non, effectivement.
Donc, a priori, effectivement, il y a une économie. Et d'utiliser, encore une fois, les agences dorénavant sur du conseil.
Merci beaucoup Jérémy Bugard. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et directeur général France d'Agence 79.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Avec cette semaine, Emmanuel Grossir de la rédaction de CB News. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors, cette semaine, règlement de compte dans le secteur de la pub. Guillaume Panot, le président de TVWA, claque la porte de l'association de l'agence conseil en publicité, la ACC. Il l'accuse de ne pas aborder les vrais problèmes. De quoi s'agit-il, Emmanuel?
A priori, on aurait pu penser qu'il s'agissait de ce dont tout le monde parle en ce moment, c'est-à-dire le sexisme dans les agences de com. Et on pensait qu'il allait critiquer haut et fort le manque de réactivité de l'instance représentative sur le sujet. Mais non, contre toute attente, ce n'est pas à ce problème qui secoue la pub en ce moment que s'attaque Guillaume Panot, mais à un autre sujet contrariant lui aussi, il faut dire, on peut le comprendre, celui de la rémunération des agences. Alors, jamais notre métier n'a construit autant de valeur pour les entreprises en les accompagnant dans les transformations majeures, indique Guillaume Panot dans Les Échos, et pour autant, jamais il n'a été aussi peu valorisé. Un fait qui est d'autant plus surprenant que dans le même temps, on en a parlé la semaine dernière, les investissements publicitaires continuent de croître. Alors, qu'est-ce qui conduit à cet appauvrissement selon le patron de TBWA? Eh bien, selon lui, tout ça, c'est la faute du duopole Publicis-Havas qui domine le marché et qui, toujours selon lui, ferait en sorte de minimiser ses pertes pour ne pas affoler les marchés financiers, car en effet, les deux groupes sont cotés en bourse. Du coup, comment dénoncer la destruction de valeur d'un côté tout en prétendant être en parfaite bonne santé de l'autre ? C'est évidemment inconciliable et cette protestation met en lumière les intérêts divergents de deux profils d'entreprise. L'une qui clame que son principal actif demeure ses talents créatifs et l'autre dont le modèle évolue, selon Guillaume Panot, vers celui très séduisant des groupes de consulting largement mieux valorisés.
Est-ce qu'il y a eu des réactions à cette annonce, Emmanuel ?
La ACC prépare une réponse épistolaire puisqu'il s'agissait d'une lettre à l'origine, mais en attendant, elle réfute les arguments exposés point par point. Dans le Figaro daté de vendredi, elle indique qu'il est faux de dire que les résultats des agences sont en baisse. Les marges brutes des membres de l'ACC à périmètre constant n'ont pas varié en 3 ans, selon elle.
Non, est-ce que plus largement, ce coup de gueule, ce coup de tonnerre va provoquer des réactions ?
On peut penser qu'au minimum, il va susciter des débats. On peut l'espérer sensibiliser les annonceurs qui auraient tout à perdre au manque d'attractivité du secteur vis-à-vis des talents. On en saura plus dans quelques jours, évidemment. En tout cas, on peut aussi se rappeler un autre coup de tonnerre provoqué, celui-là, par Publicis en 2017 dans un autre registre. À l'issue des Cannes Lions, le festival de la créativité qui réunit toute l'industrie publicitaire chaque année en juin à Cannes. Arthur Sadoun, patron de Publicis, avait annoncé que le groupe n'inscrirait plus aucune campagne, faute de budget l'année suivante, sous prétexte d'investissement plus prioritaire, ce qui n'était pas complètement faux du reste. Mais surtout, le festival avait tellement démultiplié le nombre de catégories, on a eu l'occasion d'en parler ici, que les budgets d'inscription étaient devenus pharaoniques. À la suite de ce désengagement, le festival avait remis à plat tout son règlement, comme quoi un bon coup de gueule de temps en temps, ça soulage et ça peut faire bouger les choses.
Merci Emmanuel Grossier.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
Le zoom du jour autour du mouvement MeToo dans la pub, ça a commencé en début de mois par un article du journal Le Monde qui publiait des témoignages anonymes qui accusaient le directeur de la création de l'agence Hérésie de harcèlement sexuel, ce qu'il dément. Hérésie s'est d'ailleurs depuis séparé de lui. Le mouvement en tout cas fait boule de neige avec de multiples témoignages dans de nombreuses agences. On en parle aujourd'hui avec Jean-Luc Bravi, CEO de DB Paris. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous parce que comme on le disait avant l'émission, Frédéric, on a eu quand même du mal à trouver un homme qui accepte de parler sur ce plateau. On a essuyé des refus beaucoup comme de jamais, je crois, dans cette émission. Et Carole Thomas, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être là, vice-présidente du réseau Toutes Femmes, Toutes Communicantes. Carole Thomas, ça fait plus d'un an qu'on est après l'affaire Weinstein. Pourquoi est-ce que c'est pas arrivé plus tôt dans la pub que maintenant, quoi ?
C'est peut-être parce qu'on est déjà un milieu très très exposé et qu'on a on n'a pas eu envie de s'exposer davantage. On a l'habitude aussi de raconter des belles histoires. On est dans un petit milieu et on a plutôt cherché à se protéger par rapport à ce mouvement.
Frédéric.
Jean-Luc Bravi, quand l'affaire est sortie, je crois que vous êtes adressé au personnel de l'agence de DDB. Qu'est-ce que vous leur avez dit en fait à ce moment-là ? Comment ?
C'était assez clair. C'était ici, c'est pas hérésie. De manière très simple, j'ai exprimé aux 458 personnes de l'agence qu'il y aurait une tolérance zéro sur de tels actes, qu'une telle personne jamais elle ne serait engagée chez DDB, qu'on n'avait pas ces valeurs là. Et voilà, et puis surtout manifester le fait qu'une fois de plus, on trouve des excuses aux mecs. On dit qu'il y a toujours un procès en cours, etc. Alors qu'on, enfin, tout le monde sait très bien dans la profession que c'est pas la première fois, etc. Et ça suffit, quoi. Et donc voilà, fallait agir tout simplement. Et j'ai rien fait d'extraordinaire, juste rassurer les gens de l'agence et surtout mettre des gens qui sont à leur contact. Qui peuvent voilà, il y a la RH, mais on a aussi nommé 5 personnes qui peuvent voir à tout moment si
5 personnes vous avez nommé.
Il y a 5 personnes à l'agence qui sont des relais s'ils sentent qu'il y a un harcèlement moral ou sexuel.
Et il y avait jamais eu de problème remonter chez les DDB.
Si il y a eu des problèmes il y a quelques années avec une mise à pied d'une personne. Alors évidemment comme toujours, il faut être sûr, on va pas prendre des décisions, mais voilà. Et mais moi, enfin, je donne des leçons à personne. Ça peut arriver aussi chez DDB. Donc on surveille ça. Mais en tout cas, quand ça arrive, la personne, elle part.
La pub, elle s'est aussi considérée peut-être longtemps comme un monde à part, très cool. Est-ce que c'est ça aussi qui peut-être un peu décalé aussi ? Est-ce que c'est ça qui a généré ce type de comportement ou qui les a favorisés en tout cas ?
Oui, ça c'est sûr. On est voilà, on se tutoie, on est très vite dans un espèce de mélange vie perso, vie pro, qui fait que c'est un peu sans limite, et ça fait partie, notamment quand des jeunes femmes arrivent dans des agences, dans le monde de la com, ben elles prennent vite le pli en se disant bon, ça fait partie du jeu, quoi. Je dois aussi, quand on m'invite à la soirée, etc., y aller, et il y a des débordements, mais bon, ça fait partie du truc. Donc effectivement, c'est ce monde de la coolitude, comme l'ont très bien dit des étudiants du CELSA dans leur, il y a une tribune aussi des jeunes qui disent on veut plus faire partie de ce monde de la coolitude si la coolitude c'est le harcèlement.
C'est lié au fait, je sais que vous militez aussi pour changer l'image de la femme dans la pub. Est-ce que tout est lié?
Complètement. C'est vrai que quand on a créé Toute Femme Toute Communicante il y a 3 ans, l'idée c'était pas du tout de travailler sur le harcèlement. Hein, le harcèlement nous a rattrapés, mais vraiment d'être sur la responsabilisation de la profession, parce que nous sommes vraiment le métier des représentations. On a une responsabilité énorme sur quelle image on donne de la femme, et c'est quand même, il y a encore Kantar, là je regardais les chiffres, qui a sorti une étude où on a plus de 45% des consommateurs et consommatrices qui disent l'image de la femme dans la pub est pas la bonne, et vous avez 9% des professionnels du marketing et de la com. Il y a un espèce de décalage, et en luttant contre tous ces clichés sexistes en fait qui pétrissent notre communication, on est à l'origine des contenus, et ben on luttera évidemment aussi contre le harcèlement et tout le reste. Mais c'est le cœur de notre engagement. C'est plus possible de laisser et quand je dis les clichés sexistes, c'est pas que la pub, hein, c'est sur scène avoir des rangées de mâles blancs, parce que voilà, c'est que des hommes, c'est que des blancs. Il y a un moment, faut aussi réaliser que le monde a changé, et que il faut que les communicants, les communicantes qui se disent porteurs de des innovations sociales, sont soi-disant vraiment dans la mouvance, ce qui se fait aujourd'hui, réalise que le monde a changé.
Mmh. Jean-Luc Bravi, ça manque un peu de femmes peut-être à la tête des agences aussi, et peut-être que si c'était un peu plus mixte, on n'en serait pas arrivé là?
Oui, certainement, mais je pense qu'il peut arriver des problèmes de harcèlement dans des agences dirigées par des femmes. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est dans nos métiers de création, et il n'y a pas que les directeurs de création, mais le directeur de création, c'est le dieu de l'agence. C'est-à-dire, il a un fort pouvoir de vie et de mort professionnellement, sur des jeunes qui démarrent, hommes ou femmes d'ailleurs. Mais forcément, si le gars est tordu, entre le mettre quelqu'un sur un super sujet, lui trouver un job, en plus un super sujet où la personne peut gagner des prix, etc. Mais il y a des enjeux dingues. Enfin, ça rappelle, même si c'est peut-être pas aussi comparable, Weinstein. Enfin, voilà, lui, il a eu ce pouvoir de donner des rôles, etc. Et c'est ça qui est dur, effectivement, dans ce métier faussement cool, où parfois même certaines personnes confondent le monde artificiel que l'on fabrique pour des marques et la vraie vie. Voilà, c'est tout.
Est-ce que c'est pour ça aussi que la parole a tardé à se libérer? Parce que finalement, ces femmes, elles avaient peur de se faire blacklister dans d'autres agences si elles ouvraient leur bouche?
Très certainement. Je pense que les femmes, en plus, souvent, elles sont jeunes, sont terrorisées. Et ce qui a été énervant dans l'histoire d'Hérésie, c'est que tout d'un coup, il y avait le cliché qui arrivait. C'est-à-dire qu'il y avait une femme qui soutenait ce directeur de création, comme quoi il avait rien fait, etc. C'est-à-dire que, et voilà, et du coup on mettait même le doute sur la fille qui avait porté plainte, ou les filles qui avaient porté plainte, et c'est toujours la même histoire, et faut que ça cesse, quoi. Et moi en plus, et je parle pas qu'à mon nom, je veux dire tout le comité de direction de l'agence et plein d'hommes que je connais, hein, on coopte pas ça, quoi. Moi ça me fatigue de voir que des mecs font ça. C'est pas des mecs, enfin c'est des sous-hommes, enfin c'est très dégradant pour nous que des gens comme ça entachent la réputation des hommes. Donc voilà, c'est pas qu'une histoire de, bien sûr qu'il faut qu'il y ait plus de femmes dans les agences, c'est en train d'arriver, de se faire vraiment. Après c'est difficile de rattraper 2 siècles en quelques années, mais c'est vraiment en marche. On en parlait en coulisses, mais c'est sûr. Voilà, et après les histoires de harcèlement, il suffit d'un mec au milieu de plein de femmes pour qu'il agisse aussi. Donc, de toute façon, c'est encore autre chose, je pense.
Frank.
La ACC, l'association des agences conseils en communication, a mis en ligne
une charte
sur le sujet. C'est bien, c'est suffisant.
Non, c'est évidemment pas suffisant. C'est pour ça que chez Toute Femme, Toute Communicante, on essaye d'aller plus loin. On est à la fois, on prend notre sac à dos, on va dans des écoles de com, par exemple, pour expliquer ce que sont les clichés sexistes, comment tout ça se reproduit. Et en fait, alors pour le coup, on en parlait effectivement, la jeune génération, moi j'ai une confiance énorme parce que parfois ils disent, mais ça c'était c'est l'ancien monde, ça n'existe. Bah si, ça existe, regardez les pubs qui sortent. Mais en tout cas, ils ont vraiment l'oreille sur ces sujets-là, hein, filles ou garçons. Et puis, c'est aussi avoir des actions un peu de name and shame, même si on n'est pas fan et on a la discussion au sein de communication entreprise. On n'est pas tous et toutes d'accord, mais il y a un moment
il faut en passer par là
pour que les choses progressent. Donc, je pense à un hashtag que tout le monde connaît, qui est jamais sans elle, par exemple, qui a une très forte puissance parce que créé par des CEO. Beaucoup d'hommes, des hommes qui refusent d'aller à des événements s'il n'y a pas de femmes, ainsi de suite, et qui a permis de libérer aussi et que les femmes se sentent légitimes pour dire pourquoi il y a pas d'hommes, pourquoi il y a cette représentation des femmes. Donc voilà, il faut en passer par des actions un peu plus concrètes ce que vous disiez tout à l'heure, la timidité de la profession pour agir. Enfin, on va pas attendre d'avoir des centaines de plaintes de harcèlement pour agir, quoi. Donc c'est maintenant.
Merci beaucoup Carole Thomas, vice-présidente du réseau Toute Femme, Toute Communicante, et Jean-Luc Bravi, CEO de DDB Paris. Merci également à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.